Nuit. Où l'on pénètre enfin dans le labyrinthe, l'on a d'étranges visions, et comme il arrive dans les labyrinthes, on s'y perd. Nous remontâmes au scriptorium, cette fois par l'escalier oriental qui donnait aussi accès à l'étage interdit, la lampe haute devant nous. Moi, je songeais aux paroles d'Alinardo sur le labyrinthe et je m'attendais à des choses épouvantables. Je fus surpris, quand nous émergeâmes dans le lieu où nous n'aurions pas dû entrer, de me trouver dans une salle à sept côtés, pas très vaste, dénuée de fenêtres, où régnait, comme du reste dans tout l'étage, une forte odeur de renfermé et de moisissure. Rien de terrifiant. La salle, dis-je, avait sept parois, mais sur quatre d'entre elles seulement s'ouvrait, entre deux colonnettes encastrées dans le mur, un passage assez large, surmonté d'un arc en plein cintre. Le long des parois aveugles s'adossaient d'énormes armoires chargées de livres disposés avec régularité. Les armoires portaient une étiquette numérotée, ainsi que chacune de leurs étagères. D'évidence, les mêmes numéros que nous avions vus dans le catalogue. Au milieu de la pièce, une table, elle aussi remplie de livres. Sur tous les volumes, un voile assez léger de poussière, signe que les livres étaient nettoyés avec une certaine fréquence. Par terre non plus, il ne traînait aucune saleté. Au-dessus de l'arc d'une des portes, un cartouche peint à même le mur qui portait les mots « Apocalypsis Jésus Christi ». Il ne paraissait pas défraîchi, même si les caractères étaient anciens. Nous nous aperçûmes après, dans les autres pièces aussi, que ces cartouches étaient en vérité gravées dans la pierre, et plutôt profondément, et puis les sillons avaient été emplis de peinture. Nous franchîmes l'un des passages. Nous nous trouvâmes dans une autre pièce où s'ouvrait une fenêtre qui, au lieu de panneaux de verre, portait des plaques d'albâtre avec deux parois pleines et un arc du même type que celui par où nous venions de passer, qui desservait une autre pièce, laquelle avait deux parois pleines, elles aussi, une avec fenêtre, et une autre porte qui s'ouvrait devant nous. Dans les deux pièces, deux cartouches semblables par leur forme au premier que nous avions vu, mais avec d'autres mots. Le cartouche de la première disait « Super tronos wiginti quatuor », celui de la seconde « Nomen illi mors ». Pour le reste, même si les deux pièces étaient plus petites que celles par où nous étions entrés dans la bibliothèque, de fait, celle-là était heptagonale et ces deux dernières rectangulaires, l'ameublement était le même, armoire avec des livres et table centrale. Nous accédâmes à la troisième pièce. Elle était vide de livres et sans cartouches. Sous la fenêtre, un autel de pierre. Il y avait trois portes, une par où nous étions entrés, l'autre qui donnait sur la pièce heptagonale déjà visitée, une troisième qui nous introduisit dans une nouvelle pièce, à peu près pareille aux autres, sauf pour le cartouche qui disait « Obscuratus est sol et aer ». D'ici, on passait à une nouvelle pièce dont le cartouche disait « Facta est grando » et Ignis. Elle était sans porte, autrement dit, arrivé à cette pièce, on ne pouvait plus aller de l'avant et il fallait revenir sur ses pas. « Raisonnons, » dit Guillaume. Cinq pièces quadrangulaires ou vaguement trapézoïdales, avec une fenêtre chacune, qui tournent autour d'une pièce heptagonale sans fenêtre, desservie par l'escalier. Cela me semble élémentaire. Nous sommes dans la tour orientale, chaque tour présente de l'extérieur cinq fenêtres et cinq côtés. Le compte y est. La pièce vide est précisément celle qui regarde à l'Orient, dans la même direction que le cœur de l'église. La lumière du soleil à l'aube éclaire l'autel, ce qui me semble juste et sain. L'unique idée astucieuse me semble celle des plaques d'albâtre. Le jour, elle filtre une belle lumière, la nuit, elle ne laisse transparaître pas même les rayons de la lune. Ce n'est, après tout, pas un grand labyrinthe. Voyons à présent où mènent les deux autres portes de la pièce heptagonale. Je crois que nous nous orienterons aisément. Mon maître se trompait et les constructeurs de la bibliothèque avaient été plus habiles que nous ne croyions. Je n'arrive pas bien à m'expliquer ce qui se passa, mais comme nous quittions la tour, l'ordre des pièces se fit plus confus. Certaines avaient deux, d'autres trois portes. Toutes avait une fenêtre, même celle où nous nous engagions en partant d'une pièce avec fenêtre et en pensant aller vers l'intérieur de l'édifice. Chacune avait toujours le même type d'armoire et de table. Les volumes entassés en bon ordre paraissaient tous pareils et ne nous aidaient certes pas à reconnaître le lieu d'un coup d'œil. Nous tentâmes de nous orienter avec les cartouches. Une fois, nous avions traversé une pièce où était écrit « In diebus illis ». Et après plusieurs tours, il nous sembla y être revenu. Mais nous nous souvenions que la porte devant la fenêtre desservait une pièce où était écrit « Primo genitus mortuorum ». Tandis qu'à présent, nous en trouvions une autre qui disait de nouveau « Apocalypsis Jesu Christi ». Et ce n'était pas la salle heptagonale d'où nous étions partis. Ce fait nous convainquit que parfois les cartouches se répétaient égaux dans des pièces différentes. Nous trouvâmes deux pièces avec « Quaecidit de coelo stella magna ». D'où provenaient les phrases des cartouches, cela ne laissait aucun doute. Il s'agissait de versets de l'Apocalypse de Jean. En revanche, ni la raison de leur exposition sur les murs, ni la logique de leur disposition n'étaient le moins du monde claires. Et pour accroître notre confusion, nous relevâmes que certains cartouches, peu nombreux, étaient de couleur rouge au lieu d'être en noir. À un moment donné, nous nous retrouvâmes dans la salle heptagonale de départ, reconnaissable car l'escalier y ouvrait son orifice, et nous reprîmes notre exploration vers notre droite en cherchant d'aller droit de pièce en pièce. Nous passâmes par trois pièces et puis nous trouvâmes devant une paroi fermée. L'unique passage desservait une nouvelle pièce qui n'avait qu'une autre porte, au sortir de laquelle nous parcourûmes quatre autres pièces et nous trouvâmes à nouveau devant un mur orbe. Nous revînmes à la pièce précédente, qui avait deux sorties, prîmes celle que nous n'avions pas encore essayée, passâmes dans une nouvelle pièce et nous retrouvâmes dans la salle heptagonale de départ. « Comment s'appelait la dernière pièce d'où nous avons rebroussé chemin ?» demanda Guillaume. Je fis un effort de mémoire. « Equus albus. Bien, retrouvons-la. » Et ce fut facile. De là, si l'on ne voulait pas revenir sur ses pas, il n'y avait qu'à passer à la pièce dite « Gratia vobis et pax » et de là, à droite, il nous sembla découvrir un nouveau passage qui ne nous obligerait pas à faire marche arrière. En effet, nous trouvâmes encore « In diebus illis et primogenitus mortuorum ». Étaient-ce les mêmes pièces que nous venions peu auparavant de traverser? Mais nous parvînmes enfin dans une pièce que nous n'avions pas l'impression d'avoir encore visitée. Tertia pars terrae combusta est. Cependant, arrivés là, nous ne savions plus où nous étions par rapport à la tour orientale. Ma lampe tendue à bout de bras, je m'aventurais dans les pièces suivantes. Un géant de proportions menaçantes, au corps onduleux et fluctuant comme celui d'un fantôme, vint à ma rencontre. « Un diable !» criai-je. Et il s'en fallut de peu que la lampe m'échappa alors que je faisais une brusque volte-face et me réfugiais dans les bras de Guillaume. Celui-ci me prit la lampe des mains et, m'écartant, s'avança avec une décision qui me parut sublime. Il vit lui aussi quelque chose parce qu'il recula soudainement. Puis il s'avança de nouveau et éleva la lampe. Il éclata de rire. « Vraiment ingénieux ! Un miroir !»«
Un miroir ?
Oui, mon vaillant guerrier, tu t'es lancé avec tant de courage sur un ennemi véritable il y a peu dans le scriptorium et maintenant tu as peur devant ta propre image, un miroir qui te renvoie ton image grandie et déjetée. » Il me prit par la main et me conduisit en face de la paroi qui regardait l'entrée de la pièce. Sur une plaque de verre ondulé, maintenant que la lampe l'éclairait de plus près, je vis nos deux images, grotesquement altérées, qui changeaient de forme et de hauteur selon qu'on s'approchait ou qu'on s'éloignait.
« Il te faudra lire aussi quelques traités d'optique, » dit Guillaume amusé, comme ont dû sûrement en lire les fondateurs de la bibliothèque.
« Les meilleurs sont ceux des Arabes. Alhazen composa un traité, De Aspectibus, où, avec des démonstrations géométriques précises, il a parlé de la force des miroirs. Certains d'entre eux, selon la façon dont est modulée leur surface, peuvent agrandir les choses les plus minuscules, et en va-t-il autrement de mes verres. D'autres font apparaître les images renversées ou obliques, ou montrent deux objets au lieu d'un et quatre au lieu de deux. D'autres encore, comme celui-ci, font d'un nain un géant ou d'un géant un nain.
« Seigneur Dieu !» dis-je. « Ce sont donc là les visions qu'on dit avoir eues dans la bibliothèque ?»«
Peut-être. Une idée vraiment ingénieuse. »
Il lut le cartouche sur le mur, au-dessus du miroir. « Super Tronos Wiginti Quatuor. »
Nous l'avons déjà trouvé, mais c'était une salle sans miroir, et celle-ci, entre autres, n'a point de fenêtre, tout en étant heptagonale.
« Où sommes-nous ?»
Il jeta un regard circulaire et s'approcha d'une armoire.
« Atso,
sans ces sacrés oculi ad legendum, je ne parviens pas à comprendre ce qui est écrit sur ces livres. Lis-moi quelques titres. » Je pris un livre au hasard.
« Maître, il n'est pas écrit. »«
Comment ?»«
Je vois qu'il est écrit. Que lis-tu ?»«
Je ne lis pas. » »« Ce ne sont pas des lettres de l'alphabet et ce n'est pas du grec, je le reconnaîtrai. »« On dirait des vermisseaux, des serpenteaux, des chures de mouches. »
« Ah, c'est de l'arabe.
Il y en a d'autres comme ça ?»«
Oui, plusieurs, mais en voilà un en latin, s'il plaît à Dieu.
Al-Khwarizmi, Tabulae. »
Les tables astronomiques d'Al-Khwarizmi traduites par Adélard de Bath, ouvrage d'une grande rareté, continue.
« Isa ibn Ali, de oculis, Al-Kindi, de radiis stellatis. »
À présent, regarde sur la table.
J'ouvris un grand volume qui se trouvait sur la table, un De Bestiis. Je tombai sur une page finement enluminée où était représenté un très bel unicorne.
Belle facture, commenta Guillaume, qui réussissait à bien voir les images.
Et celui-ci ?
Je lus Liber Monstrorum De Diversis Generibus.
Celui-là aussi avec de belles images, mais elle me semble plus ancienne.
Guillaume inclina son visage sur le texte.
Enluminé par des moines irlandais il y a au moins 5 siècles. Le livre de l'unicorne est en revanche beaucoup plus récent, il me paraît de facture française. Une fois de plus, j'admirais la science de mon maître. Nous entrâmes dans la pièce suivante et parcourûmes une enfilade de 4 pièces, toutes avec fenêtres et toutes pleines de volumes en langues inconnues. Et nous arrivâmes à un mur qui nous contraignit à revenir sur nos pas parce que les 5 dernières pièces pénétraient les unes dans les autres sans nous offrir d'autre sortie.
D'après l'inclinaison des murs, nous devrions être dans le pentagone d'une autre tour, dit Guillaume. Pourtant, il n'y a pas de salle heptagonale centrale. Peut-être nous trompons-nous.
Mais les fenêtres, dis-je. Comment peut-il y avoir tant de fenêtres? Impossible que toutes les pièces donnent sur l'extérieur.
Tu oublies le puits central. Quantité de verrières que nous avons vues sont de celles qui donnent sur l'octogone du puits. S'il faisait jour, la différence de la lumière nous dirait quelles sont les verrières extérieures et quelles les intérieures, et peut-être même nous révélerait la position de la pièce par rapport au soleil. Mais la nuit, on ne relève aucune différence. Revenons en arrière.
Nous revînmes dans la pièce du miroir et nous repliâmes vers la 3e porte par laquelle il nous semblait n'être pas encore passé. Nous vîmes devant nous une enfilade de 3 ou 4 pièces, et vers la dernière, nous entrevîmes une lueur.
« Il y a quelqu'un !»
m'exclamai-je d'une voix étouffée.
« S'il y a quelqu'un, il a déjà vu notre lampe !»
dit Guillaume en couvrant cependant la flamme de sa main. Nous restâmes sans bouger 1 minute ou 2. La lueur continuait à osciller légèrement, mais sans qu'elle se fît plus forte ni plus faible.
« Ce n'est peut-être qu'une lampe !» dit Guillaume,
de celle qu'on place pour convaincre les moines que la bibliothèque est habitée par les âmes des trépassés.
Mais il faut en avoir le cœur net. Toi, reste ici en couvrant la lampe. Moi, je vais de l'avant, avec prudence.
Encore honteux de ma piètre figure devant le miroir, je voulus me racheter aux yeux de Guillaume.
« Non, j'y vais, moi, dis-je. Vous, restez ici. À peine me rendrai-je compte qu'il n'y a point de risque, je vous appellerai. »
Aussitôt dit, aussitôt fait. J'avançais à travers 3 pièces en rasant les murs, léger comme un chat ou comme un novice qui descendrait aux cuisines voler du fromage dans la dépense, entreprise où j'excellais à Melk. J'arrivais au seuil du lieu d'où provenait la lueur, très faible, en me glissant à l'abri de la colonne qui servait de porte-endroit, et je lorgnais dans la pièce. Il n'y avait personne. Une espèce de lampe était posée sur la table, allumée. Elle charbonnait. Ce n'était pas une lampe comme la nôtre. Elle ressemblait plutôt à un encensoir découvert. Elle ne faisait pas de flamme, mais une cendre légère couvait en brûlant quelque chose. Je me fis courage et j'entrai. Sur la table à côté de l'encensoir se trouvait ouvert un livre aux couleurs vives. Je m'approchai et aperçus sur la page quatre bandes de couleurs différentes, jaune, cinabre, bleu turquin et terre brûlée. S'y détachait une bête horrible à voir, un grand dragon avec 10 têtes qui de sa queue entraînait à sa suite les étoiles du ciel et les faisait s'abîmer sur la terre. Et soudain je vis le dragon se multiplier et la matière cornée de sa peau devenir comme une selve de plates rutilantes qui se détachèrent de la feuille et vinrent tourner autour de ma tête. Je me renversai en arrière et vis le plafond de la pièce qui s'inclinait et descendait sur moi. Puis j'entendis comme le sifflement de 1000 serpents, mais pas effrayant, quasi séduisant. Et une femme apparut nimbée de lumière qui approcha son visage du mien jusqu'à me faire sentir son souffle. Je l'éloignai de mes mains tendues et j'eus l'impression que mes doigts touchaient les livres de l'armoire d'en face ou que ceux-ci grandissaient démesurément. Je ne me rendais plus compte où j'étais et où était la terre et où le ciel. Je vis Béranger au centre de la pièce qui me fixait avec un sourire odieux, ruisselant de luxure. De mes mains, je me couvris la face et mes mains m'apparurent comme les pattes d'un crapaud, visqueuses et palmées. Je criai, je crois, sentis un goût acidulé dans ma bouche, puis je m'effondrai dans une nuit infinie qui semblait s'ouvrir de plus en plus sous moi, et plus rien ne sut.